Jean-Pierre Pecaud, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici pour discuter de la série Jour J, qui en est à son 10e tome. Donc,
Absolument, oui.
on peut dire une espèce
Déjà,
de
déjà.
succès éditorial et de série chronique au long cours. Et espérons qu'il le sera encore. Alors, dans celle-ci, tu t'amuses à jouer, pour ne pas trop en dire, parce que le point de divergence est finalement très très rigolo et qu'on remonte très loin dans le temps, avec la prohibition, les liens, pour ainsi dire, tumultueux de la famille Kennedy avec le crime et deux ou trois autres trucs, disons Lindbergh, l'Amérique française et accessoirement un certain chancelier moustachu et très très méchant, enfin une personne très connue du XXe siècle.
Ah ouais, c'est exact, c'est ça. Ça c'est... Enfin, le point chronique, l'album se passe dans les années 40, le point chronique est beaucoup plus éloigné de longtemps. On peut le dire parce qu'avec le titre, on comprend, puis avec la couverture aussi. Le point chronique, c'est si les Français avaient gagné la guerre de 7 ans, c'est-à-dire si jamais ils avaient gardé la Nouvelle-France, cette Nouvelle-France était restée française. Et donc, si à la suite de ça, il n'y avait pas eu de révolution américaine, étaient restées des colonies anglaises, et que la France avait unifié entre ses territoires de Louisiane et ce qui va devenir le Québec, avait unifié une espèce d'empire qui prend la place un peu des États-Unis. Et donc on est 3 siècles plus tard avec une nouvelle France qui a réussi une espèce de fusion entre les Français, donc les Blancs et les Indiens, donc une espèce de société multiculturelle qui n'est pas si multiculturelle que ça, parce qu'on s'apercevra au fur et à mesure dans l'album que les Noirs, par exemple, ne sont sûrement pas intégrés et que l'esclavage existe encore, même sous une forme déguisée. Et à côté de ça, on a des tout petits États qui sont les provinces coloniales anglaises, pour une espèce d'autonomie de fait de la part de Londres, et toujours le vieux côté protestant américain qui ça continue à opérer. Dans les années 40, il déclare la prohibition, et ben, pour les Français, effectivement, la prohibition, c'est quelque chose qui n'existe pas, et donc on a une espèce de passage comme ça de caisses de whisky et de caisses, enfin, là dans le cas présent, de caisses de cognac entre la frontière française et les provinces américaines.
D'accord.
Et donc un certain personnage fait le transport et la vente donc, de cet alcool frelaté, et il s'appelle Joe Kennedy. Et ce qui là aussi n'est pas totalement absurde, puisque on sait maintenant que Joe Kennedy a participé à la prohibition, s'est enrichi à ce moment-là par le trafic d'alcool. Et donc, bon, bah, après, il y a une histoire qui commence.
Histoire dans laquelle tu touches aussi à l'histoire interne de la mafia, au sanglant règlement de compte qui eurent lieu par moment, et j'irai au contrôle, comme tu dis, que ce soit du trafic d'alcool, du trafic d'influence, et ainsi de suite.
Oui, tout à fait, puisqu'en fait, là aussi, c'est pareil. On sait que Joe avait des rapports avec Meyer Lansky, avec donc les gros dons de la mafia, et que d'ailleurs ces rapports il les a gardés, puisque la première élection de son fils
s'est joué
grâce, maintenant on en est quasiment sûr, à des votes massifs de la population italienne sous contrôle de la mafia.
Oui, vu qu'il y a eu dans mes souvenirs, il y a même eu de gros soucis ensuite, parce que la mafia a pris comme une insulte le fait que Bobby Kennedy soit nommé procureur et qu'il s'intéresse énormément justement à toute leur
pistes, une des pistes de l'assassinat de John Fitzgerald, ça serait effectivement une vengeance de la mafia qui n'a pas eu son tour sur investissement quand elle s'attendait à l'avoir.
D'accord. Deuxième collaboration avec Colin Wilson. On peut dire au moins que le sujet américain l'intéresse au plus haut point. D'autres choses de prévues avec lui?
Alors, on a d'autres choses de prévues avec lui qui ne seront pas dans le cadre de Jour J, qui seront une autre série là où il va être dessinateur à plein temps sur une série complète. Oui, moi je suis absolument ravi de travailler avec Colin Wilson parce que c'est un dessinateur. Déjà, c'est quelqu'un. On se connaît par mail en fait, puisqu'il habite en Australie.
Je crois, ouais.
il va venir en France là incessamment sous peu, donc on va enfin se connaître. Mais rien que par mail, déjà, c'est quelqu'un d'absolument adorable, vraiment quelqu'un de très très gentil. Et puis ce qui ne gâche rien, c'est quelqu'un avec un talent de un dessinateur talent à mourir, parce que c'est vrai que je dis souvent que ça fait moi quand même maintenant une quinzaine d'années que je suis dans le milieu de la bande dessinée, donc j'ai vu quand même passer un certain nombre de dessinateurs. Et une page de Colin Wilson, à chaque fois qu'on la recevait avec les deux Fred, Duval et Blanchard, enfin, au fur et à mesure que ça s'affichait sur l'écran, on se disait « Ah oui, merde, quand même, oui !» C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une retouche. Je pense que sur les 54 pages, on a peut-être dû lui demander deux retouches. Et encore, parce que vraiment, voilà, quoi, il fallait un petit peu le faire. Mais c'est monstrueux, quoi. C'est un type qui a un talent... d'enfer, quoi. Donc moi c'est une très très bonne chose qu'on bosse avec lui et la prochaine série que je fais aussi avec Fred Duval d'ailleurs, on en est tout à fait content parce que ça va se passer aux États-Unis dans les années 60. Il va y avoir des complots, il va y avoir des espions,
ne dis rien, il y a des extraterrestres.
Il n'y aura pas d'extraterrestres, mais il y aura des manipulations mentales et je pense que ça va être très bien, quoi.
Ça, je n'en doute pas. Alors, faisons un peu le point justement au niveau de tes séries. Donc, Jour J continue, je dirais qu'on en est à peu près 3 titres par an maintenant, grosso modo.
On a 4 titres par an, on essaie d'avoir 4 titres par an, parce que ça aussi, c'est une...
Parce que j'ai vu que le prochain, justement, qui s'intitulera « La nuit des Tuileries » et qui portera sur la Révolution française... sortira au mois de novembre, si je dis pas de bêtises.
Je crois que c'est ça, oui, tout à fait. Oui.
Et j'allais dire, de toute façon, comme tu le signales avec ce jour J, on commence à toucher à des uchronies dont le point de divergence se situe un peu plus loin dans le temps.
On va essayer, après donc deux saisons, si on peut dire, une dizaine d'albums. On avait ça comme idée de commencer par des références connues par tous, c'est-à-dire le XXe siècle, et après de remonter les points uchroniques avec quelques difficultés, parce qu'à partir du moment où on remonte, où on a un point uchronique qui est dans le Moyen-Âge ou voire dans l'Antiquité, on a des difficultés pour la continuation de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que plus le point uchronique est loin, plus la masse historique à manier est lourde, en fait, parce que les changements sont moins faciles. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est plus compliqué à faire. C'est aussi plus intéressant, parce que c'est vrai que si Napoléon avait gagné à Waterloo ou si Hitler n'avait pas perdu à Stalingrad, c'est relativement simple à faire, parce qu'il y a peu d'éléments qui viennent dans le futur contredire le développement. Or, si les Français avaient gagné la guerre de... Enfin, ils ont gagné la guerre de 100 ans, mais s'ils n'avaient pas perdu pendant 100 ans la guerre de 100 ans, c'est beaucoup plus compliqué après pour savoir ce qui se passe, quoi. Donc c'est assez amusant. Donc là, on commence... Il va y avoir une série, un album sur la Révolution française, il va y avoir un album sur les Mongols, il va y avoir un album sur... je sais plus, il y en a 3-4. Il y a un album sur les Vikings aussi, absolument. Alors là, c'est un scoop au tout début de la préparation, parce qu'on commence à peine depuis une semaine, il va peut-être y avoir un album sur Jésus. Mais ça, on sait pas. Enfin,
on va reconnaître le rôle bénéfique de Judas.
Alors avec un point chronique tout bête, c'est si la foule ne choisit Jésus à la place de Barabbas, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça peut être intéressant. Mais casse-gueule.
Oui, ça j'imagine. Une autre de tes séries, c'est l'Histoire secrète. On commence à approcher de la fin, finalement.
Ça commence à sentir le sapin, oui. ça commence à sentir le sapin, puisque là, on en est à, je ne sais plus, 27-28.
Je crois que ça va être bouclé en 30.
La série s'arrête en 32, en fait.
32 tomes,
la série s'arrête en 32. Je suis en train de finir le 32e tome, qui va être un album monstre, en fait, parce qu'il va faire pas loin de 70 pages.
Alors pareil, pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, tu as distillé dedans justement des petites mentions par rapport à un monde parallèle où il y aurait une divergence uchronique par rapport à notre réalité.
Ouais. Ça effectivement, on va s'apercevoir que...
Parce que tu as eu des petits passages assez ambigus ici et là.
Voilà, alors ces passages-là, on va les voir de plus en plus. Et on va s'apercevoir à la toute fin, effectivement, qu'il y a eu, ben, on revient à une divergence uchronique, effectivement. Ben, ça, j'en dis pas plus parce que bon, faut laisser le lecteur déguster les quatre symptômes qui restent. Hein. Mais c'est ça comme idée, oui, tout à fait.
Et d'autres trucs de prévu, sinon ?
Ah oui, il y a plein de trucs de prévu, non, de commencer. Donc il y a d'ailleurs une série sur la qui commence et qui sortira vraisemblablement 2014, début 2014, qui va être une série sur la Seconde Guerre mondiale, avec effectivement quatre personnages qui vont traverser la Seconde Guerre mondiale et avec un leitmotiv qui sera la chanson Lili Marlène. On va avoir le destin de ces quatre personnages. Alors là, ce sera une série purement historique, complètement historique et revendiquée comme telle, en essayant d'axer chaque volume sur des points importants de la Seconde Guerre mondiale qu'on a totalement oubliés parce que, effectivement, on a plus tendance à partir sur le débarquement de Normandie, Stalingrad, des choses comme ça. Or, entre ces gros événements, oui, il y a des petits événements qui ont été aussi très très importants, mais qui sont partis comme ça. On va avoir l'importance des Coast Watchers, par exemple, dans le Pacifique. C'était les civils australiens qui étaient largués sur les îles et qui indiquaient les mouvements de troupes par émetteur. Donc un boulot à risque qui a permis, en tout cas pendant la première année aux États-Unis, de survivre à la marée japonaise. On va avoir dans le premier tome une bataille que tout le monde a oubliée, qui s'appelle la bataille de Stone.
Oui, premier choc de char.
Qui est le premier choc de char, tout à fait. Alors, il y a certains qui l'ont pas oublié, mais c'est normal, c'est leur métier. Donc, et qui tord le cou à l'idée que les Allemands avaient des chars nettement plus performants que nous, etc.
C'est sûr qu'on tombe sur un B1 bis.
On va avoir l'histoire d'un B1 bis qui a vraiment existé, d'ailleurs, qui va...
Je crois qu'il y en a un qui a survécu à plus d'une centaine de coups.
Voilà, dans la réalité.
Qui est rentré dans la base.
Voilà, dans la réalité, il y a un char B1 bis qui descend le village de Stone, puisque c'est le village en pente. Donc il part du haut, il descend en bas. Il désingue, je crois, une vingtaine de Panzers. Il a 150 impacts. Et il repart.
Et il revient.
Alors le problème, c'est qu'évidemment, il est reparti. Donc c'est ça le souci, c'est qu'il a fallu qu'il reste. Mmh. Mais personne ne savait vraiment comment s'en servir dans l'état-major. Mais techniquement. On était très très au point.
Bon, oui, voilà, pour un concept lancé dans les années 20, on tombe sur de véritables monstres qui n'ont rien à envier finalement aux prototypes monstrueux qu'on envisageait à la fin de la Première Guerre mondiale.
Tout à fait. Donc il va y avoir ça, il va y avoir une partie sur... Puisqu'en fait, chaque personnage va vivre sa guerre dans une histoire et ils vont finir par se croiser. Et on va avoir aussi... ce que les Allemands appelaient le jour de l'aigle, c'est-à-dire le moment où pendant la bataille d'Angleterre,
la fin de la suprématie de la Luftwaffe.
On a su que c'était la fin. mais au début, on pensait effectivement, en tout cas, les Allemands pensaient que c'était le moment où la bataille d'Angleterre pouvait basculer, et ça bascule pas. Et là aussi, c'est pareil. On a des raisons de. J'espère qu'on comprendra pourquoi ça n'a pas basculé.
D'accord. Bah écoute, en tout cas, merci pour toutes ces très bonnes nouvelles.
Mais je t'en prie.
Ces très bons moments de lecture en perspective. Et à une prochaine fois.
Une prochaine fois, on va continuer, tout à fait.